Salut, c'est Laura Nathalie. Bienvenue sur le podcast des Explorateurs de Liberté, où je vais à la rencontre d'entrepreneurs, d'artistes, de toutes personnes qui ont créé de super projets et une vie dans laquelle ils se sentent libres. Aujourd'hui, je suis avec Myriam de l'agence de voyage spécialisteboutan.com. Bonjour Myriam.
Mais bonjour.
Alors Myriam, dis-nous, quand a commencé ta passion du voyage ?
Je crois que la passion du voyage a commencé, j'avais une vingtaine d'années. J'ai fait mon premier voyage aux États-Unis avec un groupe. Je suis allée en fête à Los Angeles pour les Jeux Olympiques.
Ah ouais.
Et là, j'ai dit, waouh, super quoi. C'est ça que j'ai envie de faire toute ma vie. Donc, on a pas mal voyagé avant d'avoir les enfants avec mon mari. Après, on a fait une petite pause, donc c'est voyage Europe. Je pense que j'ai fait pas mal toutes les villes d'Europe, la France, l'Italie, voilà quoi.
Il y a beaucoup à faire en Europe.
Il y a beaucoup à faire. Et puis maintenant, j'ai les filles qui sont en vente, donc ça fait quelques années qu'on a repris les voyages. Le Panama, on était, voilà, on s'est déplacé, commencé de nouveau à se déplacer un petit peu hors Europe, jusqu'à l'année 2015, où j'ai décidé vraiment que je voulais aller au Bhoutan. Sinon, on aime vraiment les voyages où peu de gens vont. C'est-à-dire, par exemple, la Thaïlande, j'irai pas. Pour donner un exemple, voilà.
Tout le monde va là-bas,
moi j'ai pas envie, voilà. Alors que je pense qu'il y a des endroits magnifiques, mais je sais pas, là, du coup, je mets les pieds au mur. Donc voilà, c'est le genre de voyage qu'on va pas forcément faire.
Ouais.
Donc le Bhoutan, je sais pas, j'avais dû voir un reportage et je me suis dit, ouh là là, un petit royaume, pas beaucoup de personnes y vont, ça c'est pour moi, quoi. Mmh. Et on est parti en octobre 2015 et ma vie a changé.
Ma vie a changé,
c'est vraiment ça quoi, ma vie a changé. Donc on est arrivé là-bas, déjà il se passe quelque chose d'incroyable quand on débarque là-bas. Alors est-ce que tout le monde est touché? Moi j'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont allées, qui ont eu la même expérience que moi. Mais en tout cas moi j'étais très très touchée au moment où on arrive, on a l'impression d'être d'une autre dimension.
Une autre dimension.
Ouais,
ouais. Ça fait rêver, ça.
Ouais, ça fait rêver. Ça fait rêver. C'est tellement beau. Il y a une énergie terrestre, surtout. Moi, je suis très sensible à ça.
Mmh.
Sur place. Après, ben voilà, ils sont tous en habit traditionnel. On arrive au Star Report, on se dit, waouh, on est où, quoi. Et on est accueillis avec des beaux sourires. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Et là, en fait, on sort de l'aéroport avec mon mari. Et puis, au Bhoutan, il faut savoir qu'on ne peut pas aller sac à dos, passer la frontière comme ça et voyager. On est reçu par un chauffeur et un guide. C'est obligatoire. De ce fait, ils vont préserver leur culture, leur façon de vivre, l'environnement, qui est très important pour eux.
Mmh. Ah, mais il y a un certain nombre de personnes qui peuvent entrer.
Alors, ce n'est pas un certain nombre. C'est-à-dire qu'il y a un coût. C'est un voyage qui a quand même un coût. Mmh. Hein, on ne va pas au Bhoutan comme on va à Majorque ou qu'on va en Floride. Ça a un coût. Donc ça va limiter forcément le nombre de voyageurs. Mais il n'y a pas de limite en soi.
D'accord.
Voilà. Okay. Donc on arrive là et on voit tous ces guides qui sont trop beaux. Ils s'appellent des gos, en fait. Ils sont en robe, les hommes. Et là, je vois un et je dis, ça, c'est le nôtre, quoi. C'est une évidence que c'était le nôtre. Il n'avait pas monté encore sa petite pancarte. Et je dis, ça, c'est le nôtre. Et donc, il monte sa pancarte, c'est marqué Myriam Cyril Baridon. Et là, il s'est passé quelque chose, en fait. Alors, bon, moi, je suis très... Depuis, déjà un petit peu avant, mais depuis, évidemment, moi, je suis très ouverte sur tout ce qui est ésotérisme, les rencontres des âmes et les choses comme ça. Donc, effectivement, là, il s'est passé une rencontre très particulière avec cette personne. Et voilà, alors, on a fait notre petit séjour qui a duré 11 jours sur place, qui était absolument magique, quoi. Je suppose que c'est un pays qui a une identité propre. Et voilà, ceux qui ont vraiment les moyens, parce que c'est vrai que c'est quand même un coup, il faut aller une fois au royaume du Bhoutan.
Est-ce que c'est vrai que c'est aussi le pays du bonheur, c'est ce pays?
Alors c'est ce qu'ils disent, ouais, c'est le pays du bonheur national brut. Après, en même temps, voilà quoi, ils n'ont pas beaucoup de travail. Il y a beaucoup de jeunes qui sont au chômage parce qu'il n'y a pas d'industrie. Donc ils vont vivre de l'agriculture principalement. Et puis après, il y a ceux qui sont au gouvernement, les bureaux, les guides, les chauffeurs. Mais ils ont un gros problème de personnes, de jeunes qui n'ont pas de travail. Mmh. Ça, c'est vraiment un gros problème. Mais sinon, les enfants vont tous à l'école, ils apprennent tous l'anglais, les gens ont accès aux soins, c'est gratuit.
Ah ouais.
Mais en fait, tout ça, c'est nous. C'est le touriste, en allant au Bhoutan, de cette taxe qu'on va payer au gouvernement, avant de partir, il y a $65 qui est retenu par le gouvernement. Et ces 65 dollars vont aller pour le bien-être des habitants.
D'accord, ok.
Voilà, les hôpitaux, les soins, l'environnement, ils ont zéro, ils sont 100% neutral carbone. C'est-à-dire qu'ils sont, il n'y a pas de pesticides dans les champs, il y a des arbres partout, 70% du pays est recouvert de forêts. Wow. Donc, il y a une atmosphère particulière.
Ah
quoi.
Bah ouais,
des monastères, des moines partout. Donc, il y a une atmosphère très particulière.
Du coup, ce premier voyage se termine.
Et qu'est-ce que c'est ? Alors, je vois arriver les jours petit à petit à la fin. Et là, je me dis, ouais, ça va être difficile. Quoi. Donc, voilà, évidemment, le dernier jour arrive. Il nous amène à l'aéroport. Et là, je pleure. Quoi. Ça m'est jamais arrivé, mais là, je pleure. Quoi. Mon mari est assez ému, le guide aussi. Enfin, ça devient un peu compliqué. Et on part sur Katmandou. Là, j'ai beaucoup pleuré, quoi. J'ai beaucoup pleuré, j'étais malade toute la nuit. Enfin, je me suis dit, il y a un truc qui se passe, quoi. Il y a un truc, c'est si bizarre, quoi. Et voilà, on a fait un séjour sur Katmandou. On est rentré en Suisse, c'était donc en novembre 2015. Et là, j'ai commencé, je sais pas par... Voilà, c'est fait. C'est-à-dire qu'on a commencé à communiquer par SMS au départ, avec mon ami sur place. Ensuite, il s'est mis sur Messenger, ça coûtait moins cher, le pauvre, pour lui. Et voilà, on pouvait pas s'arrêter, je pouvais pas couper le lien, on n'arrive plus à couper le lien en fait. Mmh. Et un jour, je lui fais, au mois de janvier, je lui fais, Tachi, j'ai vu sur un blog, ou sur internet, je sais plus, que les Bhoutanais pouvaient inviter des étrangers. Alors il me dit, oui, écoute, je vais voir, je sais que ça existe, mais je sais pas comment on fait, je me renseigne. Et là, il revient vers moi, et il me dit, écoute, Myriam, je peux pas t'inviter parce que je suis pas sortie du Bhoutan. C'est-à-dire qu'un Bhoutanais peut inviter deux personnes quand il est allé à l'étranger. Mais par exemple, si le Bhoutanais est allé en France, il invite deux Français.
D'accord.
Donc il fallait qu'il trouve quelqu'un qui est venu en Suisse et qui pouvait m'inviter.
Et inviter, ça veut dire ?
Alors ça veut dire que je ne paye pas les taxes.
Ah, d'accord. Okay.
Pardon, ouais. C'est-à-dire que ce package qu'il faut payer tous les jours, qui varie, ça dépend, en 200 et 290 dollars. Ouais,
comme conséquent.
Voilà. Mmh. Du coup, je ne payais pas les taxes. Je payais mon billet d'avion et sur place, les hôtels et ma nourriture. Mmh. Donc, il me dit, OK, moi, je ne peux pas t'inviter. Je ne suis pas venue en Suisse, je ne peux pas t'inviter, mais je vais, voilà, je cherche. Et quelques semaines plus tard, il m'envoie un petit message. Il me dit, j'ai retrouvé un ami d'école qui travaille au gouvernement du Bhoutan et qui va en Suisse et qui est d'accord de me donner une invitation pour toi. Et là, je me dis... Et là, le truc, en fait, que j'avais lancé comme une blague, en fait, prenait d'un coup forme, tu vois.
Ouais.
J'étais là, ouais, OK, d'accord. Et c'est quoi, je me dis, oh là là. Et puis, voilà, je reçois les documents, je remplis, tout ça a mis beaucoup de temps, hein, ça a mis 4 mois. Et un beau matin de jeudi de l'Assomption 2016, je me lève, j'avais 10 messages, les deux m'avaient écrit, son copain et mon ami. C'est bon, t'as le visa, réserve tes vols. Et là, c'était vraiment réel, quoi. J'étais dans ma cuisine, je suis mis à pleurer. Ma mère, il me dit, t'as quoi ? Il me dit, j'ai mon visa. J'étais là, je me dis, il faut que je retourne toute seule cette fois. Et je suis partie en juin 2016. Voilà. 2 semaines de nouveau. Et ouais, c'était magique, en fait. C'était magique, mais mon ami sur place, je pense qu'il est... C'était la première fois qu'il recevait, en fait. J'étais plus dans ce mode tourisme, en même temps, lui, il était dans le mode guide. Je pense qu'il s'est dit, super, elle vient, et en même temps, qu'est-ce que je vais faire d'elle, en fait. C'était un peu... Donc, on a fait quand même ces 2 semaines, de nouveau, toujours un petit peu en mode touriste. Il y avait un chauffeur, et moi, c'est pas ce que je voulais, en fait.
Ce
que je voulais. Mais lui, en même temps, voilà,
il ne sait pas trop comment faire
avec une fille toute seule, en plus. Il m'a dit, c'est un peu compliqué. Enfin, bon, c'est pour lui, c'était un peu compliqué. Mais ça s'est fait, et puis... Et je suis rentrée. Et en fait, avant, petite chose, avant que je parte, peut-être un mois avant, il m'envoie une fois un message un soir, il me dit, tu sais Myriam, ce qu'on va faire, on va ouvrir une agence de voyage. Là, j'ai oublié le truc le plus important. Et moi, j'y avais pensé, tu sais, dans ma tête, en me disant, ouais, c'est utopique ce truc, quoi. Mais je me disais, si j'ouvre un truc, en fait, je pourrais peut-être y retourner plus facilement. Donc, on nous parle au mois de juin, et je dis, OK, moi, je fonce. Je rentre, je fais un site, on y va, quoi. Donc, je rentre à fond. Je commence à prendre des contacts, à chercher quelqu'un pour m'aider à faire mon site.
Et tu savais comment faire une agence de voyage ?
Aucune idée. C'est là que tu vois qu'à un moment donné, quand tu as un rêve et que tu ne mets pas de limite à ça, et que tu laisses le mental de côté, tu le switches, quoi. Et que tu as tellement à fond dans ton truc je pense que tout est possible.
Tu trouves un moyen. Oh,
tu vois. Et au fait, tu sais, je fais une toute petite parenthèse que tu couperas ou pas. Hier soir, j'étais à la conférence de Mike Horn à Lausanne.
Ah, super, c'était bien.
C'était absolument incroyable. Et en fait, il vient de traverser l'Antarctique, donc c'était un truc de dingue qu'il a fait, quoi. Et il expliquait, bon, il y a une éducation par son papa de tout petit qui lui disait, mais tu sais, Mike, les rêves, quand on a un rêve et qu'on y croit, tu vas au bout, quoi. Il ne te laisse pas arrêter par « Oh, tu sais, c'est difficile », par « Oh, moi, à ta place, je n'irai pas », enfin... Et en fait, c'est ce qu'il disait hier soir. Et son rêve, depuis qu'il a 8 ans, c'est de traverser l'Antarctique. Et il est le seul à l'avoir fait, en fait. Il vient de le faire. Et c'est un truc de fou, quoi. Et il l'a fait. Et tu le vois arriver de l'autre côté, quoi. Il se filme, puis il fait « Bon, bah, c'est fait ». Il s'est démonté une épaule, il a les chevilles en vrac, les doigts de pied, il n'en a plus. Et il dit, oh, c'est fake. Il leur dit, bon, le prochain rêve, c'est quoi? Et je pense que c'est ça, en fait. Là, je suis passée en mode, tout d'un coup, oui, quoi. C'est ce que je veux faire, quoi.
Donc, je trouve un moyen.
C'est 30 ans que je veux faire ça, donc oui.
Donc, ça faisait 30 ans que tu savais.
Moi, je voulais, en fait, quand j'étais à 18 ans, on habitait un petit village, là-bas, dans le Jura, et je voulais travailler d'une nage de voyage, mais il n'y en avait pas. Donc, ma mère m'a dit, il y a une usine, là, tu vas faire ton apprentissage de commerce, là. Oui, maman. Moi, c'est pas ce que je voulais faire. Donc, je voulais.
Tu étais déjà à 18 ans dans ta tête,
tu en fait, ouais, je rêvais d'être nage de voyage, en fait.
Ah, ouais.
Donc, je fais ça. Et à un moment donné, je dis à Tachi, il s'appelle Tachi, mon ami, je lui dis, écoute, Tachi, j'avance bien. Il faut que tu obtiennes la licence boutanaise, la licence agent de voyage. Et là, je me rends compte qu'en fait, lui, il ne peut pas l'avoir. Parce que pour avoir une agence d'agent de voyage au Bhoutan, il faut avoir un niveau universitaire, ce qu'il n'a pas.
Ah, d'accord.
Il ne s'était pas très bien renseigné, en fait. Parce que là, enfin, c'est l'Asie, j'imagine que tu connais, il dit toujours « Oui, oui, pas de soucis, ok, oui, oui ». En fait, non, quoi.
En fait, il y a quand même des complications.
Ouais, il y a des complications. Et donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il me dit, t'inquiète pas, je vais recontacter James, qui est donc la personne qui m'avait invité l'année d'avant. Je vais voir avec lui. Et il va, il me téléphone depuis là-bas, ils étaient les deux, il me téléphone avec Messenger. Et du coup, James est là, il est partout dans l'affaire, c'est OK pour toi. Lui, il va pouvoir avoir la licence bhoutanaise d'agent de voyage. J'ai dit, OK. Donc en fait, chaque fois qu'il y avait un obstacle, où je me dis, ah, c'est cuit, j'ai fait tout ça pour rien, il y a un truc qui se passe. À chaque fois. Donc voilà, j'ai dit, ok, alors je contacte James, j'ai dit, écoute, moi, le site, il est au taquet, hein. J'ai dit, vas-y, quoi. Et en décembre de l'année passée, le site était mis en ligne, il a obtenu la licence.
Donc le site avait besoin d'une licence?
Alors, pas le site, ah, non, mais si tu veux, au Bhoutan, pour qu'il bosse en tant qu'agent de voyage et qu'il ait le droit de recevoir du monde, il avait besoin d'une licence d'agent de voyage.
Okay.
Donc il l'a fait à son nom.
Ok, ok.
Alors, en décembre 2016, tout s'est mis en place. Et puis, depuis, voilà, j'essaie d'en parler, Facebook, je fais une page, j'ai contacté des agences de voyage pour faire des partenariats qui m'aident aussi à trouver du monde, tu vois. Et j'ai suis donc retournée cette année au mois de mars. Donc, je savais, avant l'hiver, je me suis dit, après les grands froids, je retourne au Bhoutan. Donc, je suis retournée en mars. Et là, de nouveau, je n'ai pas payé les taxes. James s'est débrouillé pour m'inviter en tant qu'agent de voyage suisse, ce que je ne suis pas. Que j'ai pas d'identité ici, voilà. Mais on a fait des lettres, comme quoi, voilà, il m'avait rencontré en Suisse, je l'ai aidé à développer un business, donc j'ai pas payé les taxes. De nouveau, j'ai été invitée par le gouvernement. Et là, sur place, c'était très différent cette fois, parce que mon ami Tachi avait loué une voiture, donc pas de chauffeur, pas de touristes. On est parti dans l'Est, on a fait l'Est du pays, on était chez les gens, j'étais chez ses parents. Tout d'un coup, lui, il a commencé aussi à switcher un peu et à comprendre ce que je voulais, quoi. Plus de resorts pour les touristes, des petits hôtels bhoutanais.
Comment l'expérience locale.
Voilà, je voulais... Enfin, je me suis dit, ça commence à prendre forme, il faut y aller gentiment. Donc là, on a visité tout l'Est du pays, c'était absolument magique. Et en revenant sur la capitale, on a fait un petit briefing avec James, donc... pour mettre en place nos premiers départs. Donc là, j'ai un groupe de 4 qui partent en 3 semaines.
Waouh, hyper cool.
Et 2 personnes qui partent au mois de novembre, et je vais avec. Donc là, je repars en novembre.
Mais à chaque fois, tu vas avec eux?
Ben, j'essaye. Donc là, les 4, non, parce qu'ils voyagent beaucoup, ils parlent anglais et tout. Et en novembre, c'est mon très très bon ami à moi qui m'a dit non, je vais, mais tu viens avec nous. Quoi. Donc je pars au mois de novembre. Et tout se met en place. Après, c'est pas simple. Hein. Classique,
ouais,
c'est pas
ça. Imaginer.
Donc, il y a des nuits où je dors pas. C'est pas facile. parce qu'ils communiquent très peu. Je ne sais pas si les Asiatiques en soi, mais en tout cas les Bhoutanais ne communiquent pas beaucoup entre eux.
C'est assez asiatique.
J'ai besoin d'infos, il me dit oui, je te contacte lundi. Et 5 semaines plus tard, le lundi est toujours pas arrivé. Là, je trouve ça un peu à m'inquiéter. Donc, c'est pas facile. Donc, apparemment, je dois vraiment apprendre à lâcher prise quoi, avec eux. Parce qu'à la fin, tout arrive à point. Mais en même temps, que c'est pour moi, je me dis ça va. Mais quand je suis responsable de gens, voilà, il faut. J'essaie de leur expliquer. Quoi. Je dis, tu sais, en Suisse, on fait les choses à l'avance, on communique beaucoup. Donc, essaye de faire un petit pas dans ma direction et moi, je fais un petit pas dans la vôtre en essayant d'être plus posé.
Mais c'est génial. Donc,
mais voilà, donc j'ai mon agence. Qui est, voilà, qui est officielle là-bas et qui est maintenant même, mon ami a contacté quelqu'un aux États-Unis, donc mon logo, tout est parti aussi là-bas aux États-Unis. En essayant de voir si on arrive à avoir quelques personnes depuis les États-Unis. Mais maintenant, voilà, maintenant il faut que je développe, que je trouve du monde. C'est bien, 6 personnes pour un début, c'est bien. Plus, je pense que ça n'aurait pas été. Démarrer
c'est pour un peu.
Ouais, temps, je pense que ouais, voir là-bas comment ils gèrent et tout. Apparemment, c'est bon, les hôtels sont réservés. Il m'a contacté ce matin, c'est bon, il me dit le visa est bientôt en place, donc je pense que c'est bon. J'en fais confiance en même temps.
Ouais,
ouais. Mais c'est cette préparation, quoi. C'est, voilà, c'est.
Ouais, et tu veux vraiment faire de
la
meilleure.
Ouais, tu vois, j'ai
envie de. C'est la même expérience que toi,
voilà,
t'as eu, quoi.
Et c'est ça, j'ai envie que vous ayez le même coup de cœur, les gens qui vont arriver là-bas, quoi. Voilà, donc maintenant j'ai 2-3 agences en Suisse qui j'espère pouvoir travailler. J'ai une autre petite agence sur Cernier que je vais aller voir. Je cible des petites en fait pour avoir un bon contact. Et puis, mais c'est ça, il faut que je me fasse connaître. En fait. Parce que si tu tapes voyage bouton, mon site ne sort pas quoi, forcément.
Ouais,
il y en a plein d'autres qui sortent avant, donc mon site ne sort pas. Ouais. Mais voilà, et puis c'est ce contact qui se passe, quoi. Il s'est passé un truc. Ouais. C'est des travails d'âme qu'on appelle ça, et c'est des âmes qui se retrouvent en fait.
Des travails d'âme.
Ben, c'est-à-dire que, bon, alors après, on n'y croit pas. Moi, donc je sais que les gens, quand ils décèdent, voilà, on est réincarnés, qu'on n'est qu'un corps physique, nous. Hein. C'est notre âme en fait qui décide avant notre naissance ce qui va se passer, notre chemin de vie. Et après c'est notre mental qui va pouvoir faire bugger tout ça, mais notre âme elle sait exactement les gens qu'on va rencontrer et ce qui va se passer. Et il y a des âmes qui se sont rencontrées dans d'autres vies, puisqu'on en a eu plusieurs, et parfois elles se rencontrent. Donc c'est ce qui s'est passé au bouton. Des âmes qui se reconnaissent. C'est pour ça que quand je l'ai vue, on n'a pas pu se rencontrer ailleurs. En même temps il n'est jamais sorti. J'étais là. Et tout d'un coup on est très proche de ces gens en fait. Il se passe un truc. Et tu peux pas, ça dépasse... le mental, parce que tu te dis c'est pas possible en fait. Ouais. Et c'est là que tu dis oui, effectivement, il y a des âmes qui se rencontrent et qui ont fait plusieurs vies ensemble ou qui ont des chemins de vie à faire ensemble. Donc j'ai probablement beaucoup à leur apporter et je pense qu'ils m'apportent beaucoup. Voilà. Et depuis que je suis rentrée, en fait, la première fois, chaque fois il se passe des choses. Quoi. J'ai rencontré des gens, j'ai fait des rencontres que j'aurais pas fait avant. J'ai mis en place des projets que j'aurais absolument pas fait.
C'est fou, ça a déclenché.
En fait, ça déclenche des choses, tu vois. Mmh. Ben, je te rencontre aujourd'hui, par exemple, tu vois, bêtement. Hier, j'étais à Perrois, j'ai été voir une amie, en fait, une amie. C'est la première fois qu'on se rencontre. On s'est rencontrés par Facebook, de nouveau, qui était au bouton et qui a la même histoire que moi. Et là, souvent, on échange nos expériences. Et l'autre fois, je lui dis, Aïdé, je dis, je crois qu'il est temps qu'on se rencontre. Et hier, j'étais à Perrois. Ding dong, j'ai quelqu'un que je connais pas. Elle ouvre la porte. Hello. Et je suis restée 4 heures chez elle.
Ah ouais, tellement vous aviez. Ah,
j'avais tellement. Et j'ai l'impression que tout ce qu'elle racontait, c'était moi ce que j'aurais pu dire. Et je pense vice versa en fait. Tu vois, tellement. Il s'est passé la même chose quoi. Elle est arrivée là-bas. Son guide, elle l'a vue. Elle s'est dit, mais il se passe un truc quoi. C'est quoi l'histoire quoi. Et c'est des rencontres d'âmes. Et que ça se passe si loin de chez soi, c'est touchant quoi.
Ouais,
tu
ouais,
vois
ouais.
Et il fallait qu'il se passe quelque chose quoi, effectivement. Alors voilà, il y a des moments où je suis découragée là. Il y a un mois je disais non mais laisse tomber, c'est du pipeau, ils vont me laisser tomber, je vais me retrouver avec ces gens et qu'on paye 10 000 $, genre rembourse, tu sais, t'as ton motel qui
coule.
T'es
un peu dur.
Ouais, je suis un peu dur, t'as ton motel qui est là, mais quelle idée, enfin tu vois quoi. Et puis voilà, et puis ça repart parce qu'ils reprennent contact. Je me dis non quoi, c'est ça quoi. C'est ça.
C'est ça, ouais.
C'est ça que je dois faire. Alors voilà, effectivement, je pense que mon ami, je l'aide beaucoup. J'ai l'impression d'être sa maman, sa sœur. Sur les mamans, c'est bizarre, en fait, tu sais. Je conseille, fais pas ci, fais pas ça. Des fois, je me dis, mais... Je pense que c'est ça, je suis là pour, je pense, lui donner un petit coup de pouce. Et puis eux, ben, je pense qu'ils m'apprennent le lâcher prise. Ils m'apprennent à vivre l'instant présent. Ils sont bouddhistes, c'est ça. Eux, ils vivent aujourd'hui, on est mercredi, demain, je sais pas. On sait pas quand c'est demain. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui.
Tu vois? C'est vrai que pour nous en Suisse, ça fait bizarre.
Tu vois? Et d'hier, c'est fini, quoi. Donc ça sert à rien de revenir ailleurs. Et Mike, ils l'ont parlé hier, en fait. Ils disaient, ce qu'on a fait hier, c'est fini. Ce qui compte, c'est là maintenant. Ouais. Et puis même si lui, il avait des problèmes avec son bateau pour passer dans la glace pour arriver où il devait partir, eh ben c'est pas grave, qu'on passe par là, c'est pas grave, on va passer à gauche. Quoi.
Ouais.
Et même
ouais.
si il faut 2 jours pour avancer de 500 mètres, il a mis 2 jours. Mais il a dit, j'avais mon rêve depuis 8 ans et c'est par là, c'est par un bout de glace qui allait m'arrêter. Même si sous le bateau, tout le monde disait, mais écoute, on va faire demi-tour, c'est bon, là, on va y arriver.
Et donc c'était le seul à dire non.
Ouais, et il l'a fait. Donc, il disait, voilà, même si on a un rêve, on trace, c'est pas ligne droite, c'est pas l'autoroute, quoi. Forcément, il va y avoir des obstacles. C'est inévitable.
Oui.
Quoi. La vie, c'est
ça.
C'est
trop facile.
Sinon, c'est trop facile. Donc, la vie, c'est ça. Mais c'est ça, c'est qu'il faut pas s'arrêter à ça, quoi.
Ouais.
Faut le contourner, sauter dessus, ou faire un petit détour. Donc, là, des fois, ouais, j'ai un peu le moral. Mon mari me dit, ça va, je dis, ni t'es boutané, je dis, oh, j'en peux plus. Et puis voilà, puis d'un coup il y a un message qui arrive, et puis t'es là, non, c'est ça quoi.
Ouais.
Ça fait pas de doute, c'est ça. Au fond de moi, je sais que ça va le faire quoi.
Et ça, je crois que c'est le truc le plus important à voir.
Ça sent ça, tu ouais. vois, c'est, à un moment donné, quand tu as le truc, et tu l'as là, enfin, je le ressens là. Quoi.
Oui,
tu vois,
ouais,
je veux dire. C'est une évidence,
dans
même
le corps,
que
quoi.
Ouais, c'est dans le corps, tu vois, c'est plus là, ça descend là.
Ouais, ouais.
Et c'est une évidence quoi. Donc voilà, et je pense qu'ils sont là pour ça. Ils vont m'apprendre à ça. Je suis partie faire une retraite l'année passée. Jamais de ma vie j'aurais fait ça. Quoi. Je vois ça sur Facebook, retraite tibétaine. Je vois ça, je dis, ah ouais, ça, je crois que c'est pour moi. Quoi.
Alors que tu l'aurais pas fait.
Mais je pense pas. Je dis, là, je vais apprendre un peu plus ce que c'est la religion bouddhiste, comment il fonctionne. Et ouais, je me suis inscrite. Puis quoi, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Bon, bah, je dis à mon mari, je vais, il me dit ouais, vas-y. Heureusement, il est cool, donc il me laisse faire. Et je suis partie le 26 décembre l'année passée, je ne sais pas où j'allais, je ne sais pas ce que j'allais faire. Là, sur l'autoroute, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce délire encore?
Je connais le sentiment,
mais qu'est-ce que c'est? Mais j'étais là, et je voyais à mon mari, je dis non, mais la prochaine fois, tu dis non. Hein. Je dis, mais qu'est-ce que je fous là quoi? Et en fait, je suis arrivée là-bas, c'est un endroit absolument magnifique dans le sud de la France. J'ai vu ce temple, ce drapeau à prière, et là tout de suite je me suis dit ok, je suis au bon endroit. Là je suis au bon endroit. Quoi. J'ai
passé.
Ouais, et de nouveau aussi ça prend là. non, là c'est juste. Mm-hmm. Et j'ai passé une semaine magnifique, et j'ai fait des rencontres magnifiques avec des gens que je suis toujours en contact. Et je vais retourner, je pense, cette année. Quoi. Mm-hmm. C'est un endroit hors du temps, où justement on vit que le moment présent, et ça fait tellement de bien. Alors évidemment, c'est un peu bisounours, hein, c'est ta petite bulle,
ah, mais moi,
tu vois, c'est tous des gens qui sont dans le bouddhisme, et cette bienveillance, c'est des sourires toute la semaine, ça fait du bien, quoi.
Pourquoi c'est pas comme ça tout le temps?
Ouais, et là, et après tu sors de là-bas, et voilà, t'as un con sur l'autoroute déjà, t'es là... et ça fait tellement de bien, quoi. Et t'apprends beaucoup.
Ouais.
Et j'ai beaucoup discuté avec les gens sur place et j'ai expliqué mon parcours. J'ai dit, faut me m'aider à décoder quoi, comment il fonctionne. Et... Donc ça m'a beaucoup aidé.
Ouais. C'est fou, c'est comme si tu avais un avant-après.
Ouais. Et Heidi, que j'étais voir hier, m'a dit, il y a l'avant et il y a l'après. Et même si à un moment donné, tu as envie de dire, stop, je coupe, ça m'arrivait. Hein. Je dis, non, c'est bon, j'arrête tout. Je coupe, je ne peux plus, je reprends ma petite vie, je ne sais pas ce que je vais faire. Et tu ne peux pas en fait. T'as cette idée 2 secondes parce que t'en as marre qu'ils te répondent pas, parce que tu envoies 3 questions et ils te répondent à une, parce que c'est comme ça.
Ouais.
Et puis tu repars parce que t'as un message, c'est impossible, tu peux pas couper.
C'est plus fort que toi.
C'est plus fort que toi. Et c'est 24 sur 24 quoi. Donc j'ai d'autres jobs, parce qu'il faut que je travaille un petit peu, parce que là je dépose de l'argent mais je ne gagne pas pour l'instant. Donc j'ai d'autres petits jobs, mais en fait je les fais parce que je dois les faire. Mais... J'ai toujours mon esprit à dire, il faut que je contacte qui, il faut que j'avance, il faut que je fasse la pub sur mon page Facebook, il faut...
Du coup, c'est cool parce que tu arrives vraiment à trouver le temps aussi. Parce que
oui.
Parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, mais
oui.
toi, je suis en train de travailler.
Oui,
rêve,
moi, j'ai beaucoup de chance. tu vois. Ouais,
ouais, mais, mais tu travailles quand même à côté et t'arrives quand même à trouver.
Oui, oui, alors j'ai deux petits jobs à côté. Je travaille beaucoup à la maison parce que mon mari est à son compte. Et franchement, merci à mon mari parce qu'il me laisse ce temps, quoi. Et à mes filles, je dois leur prendre la tête avec mon bouton, quoi. Deux ans, des fois, je dis, mais je parle que de ça, quoi. Parce que c'est tellement moi, quoi. Et quand j'ai là-bas, je rentre chez moi, quoi. C'est ce sentiment, en fait. Déjà en juin, mais en mars, c'était très fort, quoi. J'étais, tu sais, t'as un délit, t'as ta carte d'embarquement, il se passe un truc, quoi. C'est, je suis comme une gosse, quoi.
Rentrer chez soi.
Ouais, c'est comme si je rentre chez moi, quoi. Et j'arrive là-bas, je sors la tête de l'eau, j'ai l'impression d'être... tu te dis, là, pendant deux semaines, il n'y a pas de demain, il n'y a pas d'hier, il n'y a pas de 10 minutes. C'est que maintenant. Mmh. Et le temps s'arrête. C'est ce sentiment que le temps s'arrête. Je ne sais pas quel jour on est, je ne sais pas quel on est, c'est pas important. Je suis là, on va visiter ça, je discute avec mon ami, on fait ci, on fait ça, mais c'est tout. Il n'y a pas d'après, il n'y a pas de ce soir. Et ça existe. Tu peux le faire. Alors ici, c'est très difficile. Tu n'arrives pas en Suisse.
On est déjà en Suisse, il faut tout planifier.
Tout est pas planifié. Moi, j'ai telle heure, j'ai rendez-vous telle heure, je prends le boulot à telle heure. C'est impossible. Que là, en fait, ça s'espace ton. Qui est différent d'ici. Il n'y a plus de temps. Moi, j'arrive là-bas, c'est fini. J'ai plus de monde, je m'en fous. Et le temps, c'est cool. Alors, en même temps que tu arrives au bout, tu te dis, ah ouais, ça a passé vite, mais en même temps que tu es dans le truc, non. Ça, c'est cool, en fait. Parce que tu n'as pas de oh, il reste deux jours, il reste trois jours, il reste un jour. Non, je ne pose pas ça. Même la veille, je ne suis pas en dire, oh, demain, je suis triste, je vais rentrer. Non.
T'es toujours dans le
toujours coup. Jusqu'à dernier moment, quand même le dernier, bon, le dernier matin, le petit déj, je mange pas beaucoup, mais là je me dis ah, ça arrive, mais je profite jusqu'à la dernière seconde, quoi. Jusqu'à ce qu'il m'amène juste devant la porte, je profite, quoi, et après je pleure parce que là c'est difficile.
Et tu crois que ça c'est dû beaucoup aussi à la culture bhoutanaise?
Je pense que c'est dû oui, je pense que c'est dû à leur culture, à leur mode de fonctionnement. Cette ambiance très particulière qu'il y a là-bas. Je pense qu'elle est due à... À quoi c'est dû, c'est... Je pense que c'est dû... Je sais pas, je pense que c'est un truc qu'on ressent en soi. C'est... Ouais, je pense cette quiétude et puis la beauté des lieux. Parce que c'est des monastères qui appellent ça des dzongs. Qu'on voit ça qu'au Bhoutan. Même au Tibet, c'est pas du tout les mêmes constructions. C'est tout des petites maisons en bois très très colorées. C'est des... Voilà, des drapeaux à prière partout, des moines partout. Donc tu changes de temps, quoi. Tu changes d'époque, tu changes... Donc soit ouais, tu prends et tu profites, soit ben, t'es pas ouvert à ça. Et je pense que les gens qui sont pas ouverts à ça vont pas dans ce genre de pays, quoi. Et tu prends ça en pleine face, quoi. Et tu mets à leur rythme.
Et c'est ça que tu veux transmettre à tes clients?
J'ai envie que les gens, quand ils débarquent de l'avion, tu poses les pieds sous le tarmac et... Et j'ai envie qu'ils aient la même sensation. Mais je regardais au mois de mars, moi j'ai pris mon temps, j'ai descendu. À ce moment-là, déjà je prenais mon temps, je descendais de l'avion et je regardais les gens, en fait. Et les gens, ils sont tous comme ça, parce que l'aéroport c'est un truc de fou, quoi. C'est bhoutanais, donc c'est en bois.
Donc même l'aéroport est une expérience.
L'aéroport est une expérience. Donc tu descends de l'avion, tu descends d'un pied, hein. Il n'y a qu'un avion, deux avions par jour, c'est tout petit. Et je regardais les gens, en fait. Et en fait, les gens sont comme ça. Déjà, quand tu arrives de Katmandou, c'est une vallée, c'est très très dangereux cet aéroport. Il n'y a que des pilotes bhoutanais qui ont le droit de voler.
D'accord.
Parce que c'est l'Himalaya, donc tu vois l'Everest, tu vois toutes les montagnes d'Himalaya. Et c'est une vallée, donc l'avion il fait comme ça, tu sais. Ça bouge à côté, de droite, tu sais, on va se cracher, quoi. On va se cracher, il n'y a rien, avec des arbres. Et d'un coup, tu vois une petite maison, deux petites maisons, et d'un coup, une petite piste. Et justement, écoute, tu descends, c'est là, ouais, tu vois des petites maisons en bois, des... Donc déjà là, il y a un truc qui se passe. J'ai oublié que les gens... Mais j'observais en marche, je me disais, les gens, ouais, ils sont là. Tu sais, ils lèvent la tête, ils marchent tout lentement. Tu observes, en fait. Que souvent, quand tu vas en voyage, tu sors de la porte pressée, tu sais,
ouais,
tu marches, tu
alors que c'est en vacances.
Ouais, on est en vacances, mais souvent, tu traces. Je sais pas pourquoi, t'as envie de sortir pour voir dehors comment c'est, je sais pas. Mais là, t'es déjà dans l'avion, quoi. Déjà l'avion. Et puis après, il y a une énergie terrestre, une énergie de la terre. De... Moi, ça me prend les jambes, ça me... Et ouais, les gens que j'ai rencontrés là-bas, les touristes, ouais, ils sont quand même un petit peu dans ce... concept, quoi.
Ouais, donc tu fais des belles rencontres.
Et tu fais des belles rencontres. Et les gens, les enfants sont très très ouverts. Les moines, ils viennent vers toi, tu peux discuter, tu peux les prendre en photo, tu peux... Mmh. Donc je fais beaucoup de photos, alors je me régale.
Ah, parce que tu fais de la photo.
Oui, je fais de la photo. Je fais beaucoup de photos et là, je me régale, quoi. Je me régale, je peux rester des heures dans un endroit, j'observe. Mon ami est très patient en même temps, donc il attend. Donc, des fois, il attend une heure, deux heures, il attend. Et je me promène, je prends des photos, les enfants viennent vers toi. Ils ne demandent pas l'aumône, hein. Donc c'est ça, et c'est pour ça aussi qu'on est cadré, parce que le but, c'est pas que les gens viennent, commencent à donner de l'argent, des trucs. Les enfants vont à l'école, ils sont éduqués, ils sont nourris, et il n'y a pas ça, quoi. Donc tu vas avec rien, tu les prends en photo et tu leur montres les photos. Ça, c'est leur bonheur. Et les gens, c'est pareil, hein. Moi, ils sont comme ça, moi, alors que les prendre des photos, les moines aussi, ils adorent. Et c'est vrai que tu arrives à Katmandou, je sors mon appareil photo, il y a des enfants, ils tournent la main. Parce que photo, oui, mais il faut donner de l'argent.
Donc c'est vrai que ça change beaucoup la dynamique, ça.
Donc ça change la donne, quoi. Ouais. Donc il ne faut pas aller là-bas en voulant donner des choses. Et, voilà, tu vas avec rien, avec ton appareil photo. Alors, mars, c'était la période de Pâques. Ici, j'étais partie avec des petits œufs au chocolat. Et j'en ai distribué aux enfants. Voilà. Je dis ça va, du chocolat, je peux, ils étaient tout contents. Hein, voilà. Parce que j'en avais avec moi. Mais sinon, voilà, il ne faut pas aller dans ce concept, emmener des crayons, des cahiers, je sais pas quoi. Voilà. Sinon, il faut regarder s'il y a des associations. Il y a des, voilà. Mais sinon, il ne faut pas donner. On donne
c'est,
pas.
C'est aussi ça qui rend ce lieu très,
très particulier. Et puis que les gens, ils n'attendent pas les touristes pour l'argent. L'argent, ils vont l'avoir par le fait qu'on contribue à leur bien-être. Mmh. Voilà. Ouais. Et je trouve que c'est une très bonne politique. Ouais. Alors tu payes un certain prix, mais tu contribues au bien-être du pays et au bien-être de la population par ce biais. Voilà. Donc je trouve ça intéressant, quoi.
Et puis ça c'est quelque chose qu'on peut, donc une expérience comme ça on peut le ramener chez nous, quoi.
Oui.
Ça part pas.
Non, ça part pas. Ça part pas. Tu ramènes avec toi et moi chaque fois je fais une petite couche supplémentaire, je ramène avec moi et tu changes ta philosophie de vie, quoi. Je suis plus zen, je suis plus dans le conflit, en fait. Si quelqu'un m'agresse, c'est pas grave. Si m'agresse, c'est qu'il a un souci, c'est pas moi, c'est pas après moi qu'il en a, c'est qu'il a un souci lui, il s'est fait agresser par quelqu'un, puis je passe par là et ça sert à rien de répondre, quoi. Ça, c'est cette philosophie bouddhiste. Ne réponds pas à quelqu'un qui t'agresse, parce que c'est pas contre toi qu'il en a.
On devrait tous faire un voyage au Bhoutan.
Ou en Asie. Mais en même temps, tu vois, je suis allée en Birmanie, en novembre l'année passée, alors j'ai adoré, hein. J'ai adoré, c'est magnifique, les gens sont magnifiques, ils sont beaux, ils sont souriants, mais j'ai pas ressenti ça. Mmh. Voilà.
Ouais.
J'ai pas ressenti cette... Je sais pas, il y a quelque chose en plus là-bas. Donc, il faut aller au Bhoutan.
Il faut aller au Bhoutan. Il faut aller au Bhoutan.
Alors voilà, maintenant, t'es obligé de passer par une agence de toute façon, quoi. C'est obligatoire.
Ouais, c'est
voilà.
Ouais.
Donc soit tu passes par une agence suisse qui va passer par une agence bhoutanaise, donc tu vas payer plus cher parce que tout le monde se sucre au passage. Mmh. Donc le mieux, c'est de passer par une agence directe sur place. Donc par exemple, moi, j'ai pas d'agence suisse, donc moi je fais le lien, je fais le fil rouge entre l'Europe et l'agence qui est au Bhoutan. Donc les gens vont payer vraiment le prix basique de l'agence du Bhoutan. Mmh. Si tu passes par une agence suisse, tu vas taxer 1500 francs suisses, quoi. Ouais. Personne, parce qu'eux, ils prennent forcément leur dû, ce qui est normal, quoi.
Oui. Ouais.
Donc il faut passer au direct, quoi. C'est ça.
Et donc les clients que tu vises, c'est des clients plutôt suisses?
Alors, écoute, Suisse, France... Moi, en fait, j'ai pas besoin de voir les gens, hein. Je peux tout faire par Internet. Donc pour l'instant, évidemment, c'est Suisse, mais j'ai quelques contacts sur la France. Mais pour l'instant, c'est Suisse. Mais après... D'un coup, j'ai quelqu'un qui habite à Londres, je peux organiser, c'est pas un souci.
Puis donc ils te disent un peu ce qu'ils veulent et tu fais en fonction.
C'est à la carte.
Ouais. D'accord.
On fait à la carte. C'est-à-dire que tu peux dire, ok, moi je fais des photos, j'adore les oiseaux. Alors on va faire parcours avec un guide qui se connaît en oiseaux, qui va, ils font des petites marches, vont aller en forêt, ça c'est possible. On peut faire des couverts du bouddhisme, on peut faire des couverts juste du pays, simplement. Mmh. Tu peux faire du trekking, hiking, tu peux faire du vélo maintenant, tu peux faire du rafting, ils ont mis en place plein de choses. Donc voilà, tu peux aller dormir chez l'habitant. Tu peux faire des resorts 4 étoiles si t'as envie. Ma foi, si tu veux plutôt être dans ton truc cooking avec 50 ou 100 autres touristes.
Si c'est ton truc,
c'est possible. Donc on fait à la carte en fait.
Okay. Okay.
Alors la majorité des gens, ils veulent juste découvrir le pays parce que voilà. Ouais. Mais tu peux, si quelqu'un veut vraiment faire par exemple du trek, ils ont des super treks. mais il faut être au forme, hein. C'est l'école à 5000, c'est un petit peu comme au Népal, je pense. Ils le font. Ouais.
Est-ce que tu aurais des conseils pour quelqu'un qui veut se lancer dans une agence de voyage?
Je pense qu'il faut avoir le monstre coup de cœur pour le pays. Je pense que c'est indispensable. Il y a même des fois où j'envoie des messages à mes amis sur place. Je me dis, mais tu connais des trucs qu'on ne connaît pas, quoi. Tu sais, depuis que je suis là-bas, mais je dévore. Chaque fois que je suis là-bas, je ramène des bouquins. Il y a des bouquins que tu trouves que là-bas, sur le bouton. Mm. Donc j'en ai toute une pile. Donc je lis, je prends des notes. Je dis, mais ça, je ne suis pas allée encore. Je note. La dernière fois, j'étais à mon ami. Là, je vais aller là. Il dit, c'est où ça? Je dis, mais c'est là. Je sais pas, c'est à Paro. Il savait pas. Donc il a dû se renseigner. Puis il me dit, t'es sûr que tu vas aller? Je dis, je vais aller là, je vais aller là. Ok, on a fait la voiture, on a fait marcher. C'est un ermitage, mais magnifique. J'ai mis Tachi, il faut amener les gens là. Oh, mais regarde comme c'est beau. Ouais. Et ils connaissaient pas en fait.
C'est toi qui.
C'est moi qui. Mais tu vois, donc je pense qu'il faut être passionné par le pays où tu veux envoyer les gens. Il faut quitter un immense coup de cœur. Et du coup, tu transmets.
Oui, c'est ça.
Tu vois. Là, je fais la bulle des agences, j'ai déballé mon truc, et puis elle posait pas de questions. Puis je me suis dit, je pense que je l'ennuie, en fait, tu vois. Elle était là. Puis voilà, je sais pas si ça vous intéresse, je lui dis, mais elle me dit, vous êtes tellement passionnée. Elle me dit, mais oui, elle me dit, je suis intéressée, évidemment, quoi. Parce qu'elle me dit, mais on voit que vous connaissez votre truc, et puis que vous êtes vraiment passionnée. Donc, dès que tu transmets, je pense que tu vas transmettre ça aux gens, quoi. Ouais. Et puis ils te font confiance parce que tu réponds à leurs questions, à leurs demandes. En plus, je pense que c'est plus personnel. Parce que nous, on est partis avec une agence la première fois, mais la fille, elle n'avait jamais mis les pieds au bouton, en fait. Donc elle a une liste de trucs qu'elle te dit, prenez ci, prenez ça, voilà. Mais sur place, moi, j'ai des trucs astuces, tu vois. Parce que sur place, je te dis, c'est dommage, je ne nous ai pas dit ça, parce que... Il y a des trucs de se débrouiller quand même, demander, voilà. Donc là, moi, des petits trucs de la vie quotidienne pour te faciliter le truc, pour les prises, pour ça peut être des trucs débiles, quoi, les bocomates. Moi, je sais pas, tu peux partir des dollars, tu peux retirer que de la monnaie locale. On te dit pas ça, des trucs basiques, quoi.
Ouais.
Les choses qu'il faut absolument faire, il y a des bains de pierre chaude là-bas, il faut absolument faire. Ouais, c'est magique. Donc ça, il faut le faire, ça. Prenez votre maillot, surtout. Donc voilà, je pense que je peux donner des conseils que des agences ne vont pas donner parce que les personnes n'ont jamais mis les pieds au bouton.
Ouais.
Ils sont en contact avec une agence bhoutanaise. Mais voilà.
Toi, non seulement tu as mis les pieds, mais.
Mais moi, je suis. Tu vois, donc du coup. Je peux vraiment conseiller les gens par rapport à leur envie.
Et pour ceux qui ont un rêve, j'aime bien ce que tu as dit aussi, si tu t'écoutes, et t'écoutes aussi
tes sensations,
tes tripes.
Donc il y en a qui disent, ouais, c'est cher, je dis, mais peut-être faites pas, peut-être l'année prochaine, vous faites que le bouton, puis vous attendez une année pour faire un autre voyage, je dis, mais si c'est votre rêve, allez-y, moi c'était mon rêve, je sais pas, réfléchis à savoir, c'est un coup. Mais en même temps, vu qu'il me dit, c'est mon rêve, mais non. Je me dis,
mais non.
Mais non, parce que tu t'arrêtes, évidemment, je comprends que c'est quand même financièrement, c'est un coup, mais en même temps, tu te dis, peut-être que je peux me passer de ça à ça, et puis peut-être
que. Que je prends un autre job.
Je pars l'année, on fait le bouton, et puis l'année après, on reste en Suisse, ou on vient faire du camping en France. je pense que si t'as. Faut pas passer à côté.
Ouais. Et pareil, quand t'as un rêve aussi.
N'importe lequel.
Toi, ouvrir l'agence de voyage, tu l'avais quand...
J'avais 16 ans.
Donc des fois, tu t'arrêtes et tu te dis, mais attends.
Pourquoi je me suis arrêtée à ça? Parce qu'après, à la limite, j'aurais pu faire une formation, en fait. Parce qu'on était formatés comme ça. Parce qu'on casse les rêves des enfants, quand ils sont petits.
Ouais.
Tu sais, les enfants, des fois, ils ont des rêves, puis ils commencent l'école, puis on leur dit, c'est bon, quoi. T'es un personnage imaginaire, tu te dis, maintenant, t'es à l'école.
Ouais, non, il faut sérieux.
Tu vois, ouais. Et en fait, déjà là, tu les casses, quoi.
Ouais.
Et Maïkon, il racontait justement son papa, quoi. C'était dingue, quoi. Il allait dans son sens, quoi. Il racontait un jour, il lui a offert un vélo, puis il lui disait, au lieu de lui dire, écoute, tu restes autour du quartier, hein, avec ton vélo. Il disait, Mike, t'as un vélo, tu vas où tu veux, vis tes rêves. Je veux pas savoir où tu vas, mais tous les soirs à 18h, t'es à la maison.
C'est bien.
Et il disait, tous les jours, j'allais un peu plus loin, parce que plus je pédale vite, plus je pouvais aller loin, qu'il disait. Mais tous les soirs à 18h, j'étais là. Et tu écoutes ça et tu te dis, waouh, c'est magique. Et une fois, il était puni, il est à pied. Et il dit, ouais, là, je me suis dit, ok, c'est pas cool, parce qu'à pied, je vais pas loin. Donc mes rêves, ils sont tout petits autour du quartier. Donc il récupère son vélo et il disait là, 18h, j'étais à la maison. Et tous les jours, il disait, tous les jours, je pédalais plus vite pour aller plus loin. Donc, et tu te dis, oui, ouais.
Donc c'est possible d'éduquer ses enfants en leur laissant leurs rêves.
Oui. Et plus tu laisses les rêves, et plus les gens vont s'épanouir, et pas se mettre des barrières, et pas rentrer dans des cases, comme on rentre ici.
Bah oui.
Où t'as pas le droit de dire si, faut pas dire ça en public, faut pas si, soit poli, soit...
Pourquoi ?
Oui, faut être poli, c'est sûr, mais voilà.
Et tu me disais avant que tu faisais pareil, toi, t'as fait pareil avec tes filles.
J'essaye. Depuis, j'ai changé. Je sais pas si c'est peut-être trop tard, parce qu'elles ont passé 20 ans, mais ce qui est joli, au fait, c'est que... Je suis rentrée là-bas, j'ai commencé à changer ma vie, à m'intéresser au bouddhisme, à faire des choses. Je me disais, qu'est-ce que je fais ? Et je me suis dit, waouh, est-ce que je vais pas perdre du monde en route ? Est-ce que je vais pas perdre mon mari en route ?
Ça fait peur souvent.
Ouais,
ça.
Tu sais, je me suis dit, waouh, wow, là, tu fais quoi là ? Et en fait, je me rends compte que j'ai tiré tout le monde.
Ils ont tous été
tirés
vers le haut par cette énergie.
Oui, et c'est cool quoi. Et mon mari est parti en retraite cet été. Tout seul. Ouais, j'ai dit waouh, super, quoi. J'étais trop contente quoi, pour lui. Et mes filles, elles suivent quoi. Et je trouve ça tout cool quoi.
Tu me disais que ta fille, elle voulait partir et dans le vivre.
Et là, j'ai dit va, mais pas quoi. J'ai savais plusieurs fois la première fois, t'as loupé le truc. J'ai dit mais.
Vas-y
quoi. Alors l'autre, elle a un apprentissage, donc on va sur les deux ce cercle, mais il faut pas s'arrêter quoi.
Ouais.
Il faut pas s'arrêter à ce que disent les gens. Si t'as un rêve, écoute pas les gens, écoute ton cœur. Voilà, tu vois, il faut écouter son cœur. Et si là c'est oublie quoi. Pose ton mental, dis-lui de te foutre un peu la paix, médite comme ça, il a un truc à faire et fonce quoi.
Ouais, et si c'est ton cœur, comme tu disais avant, tu trouves un moyen.
Il y a toujours un moyen.
Toujours.
Donc il ne faut pas s'arrêter au premier obstacle. Parce que j'en ai déjà eu beaucoup, et en même temps, à chaque fois, il y a un truc qui se passe. Tout de suite, ou des fois, il faut patienter. Je me dis, ça ne peut pas s'arrêter. Quoi.
Ouais.
En même temps, là-bas, en haut, on m'a amené jusque-là. Donc il y a un mois, je me dis, ah, j'arrête, j'en peux plus. Et puis, mon mari me dit, mais tu peux pas. Je dis, mais non, je ne peux pas. On ne m'a pas amené jusque-là, je n'ai pas fait tout ça pour que ça s'arrête. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, quoi.
Ouais, ouais.
Donc non, je trace, quoi.
Ouais.
Tu vois. Donc, après, j'ai la vie qui me donne beaucoup, parce que j'ai un mari qui travaille beaucoup, et financièrement, j'ai pas besoin d'avoir un job à 100%.
Mmh.
Avec les petits jobs que j'ai, on arrive à tourner, donc j'ai quand même... Merci quoi.
Vous avez la vie, toi. Une très bonne relation aussi.
Oui,
enfin, il te soutient.
Oui, il me soutient. Il m'a laissé partir. Moi, j'en ai plein d'amis qui m'ont dit, moi, je ne serais pas partie à ma femme, quoi, toute seule là-bas. Et je crois qu'il a eu l'intelligence de comprendre que me dire non, ça ne servira à rien.
Ouais.
Et la première fois, en fait, je lui ai même pas demandé. Quoi. D'un coup, j'ai dit, tu sais, ta chérie va pouvoir m'inviter. Il me dit, bon, mais c'est génial. Quoi. Même si je savais que lui, au fond de lui, il rêve d'y retourner. Il m'a laissé partir. Et au décembre l'année passée, je lui disais, je vais y retourner en mars. Et en janvier, il rentre un soir, je lui dis, tu sais, j'ai réservé mes vols. Il me dit, super, super. Donc j'ai beaucoup de chance.
Et ça renforce votre relation.
Ouais, oui. Mais j'ai beaucoup de chance parce que lui aussi, il aimerait y retourner. Mais en même temps, je lui dis, tu sais, on aime beaucoup voyager. Donc une fois par année, on fait un voyage ensemble. Donc je lui dis, je vais pas te ramener au bouton. Ça n'a pas de sens. Ça va nous coûter une blinde parce qu'il va falloir qu'il paye des taxes et tout. Et t'es déjà allé et je pense que ça sert à rien. Nous, on a fait ce qu'on avait à faire les deux là-bas.
Ouais.
J'ai dit, je préfère aller... Là, on était en Namibie au mois de juin, tu vois. C'était un truc de fou, c'était magnifique. Et j'ai dit, voilà, moi, je préfère qu'on fasse des voyages, les deux, des endroits qu'on n'est pas allé. Il y en a tellement qu'on a envie de voir et qu'on les fera pas tous. Donc, ça n'a pas de sens.
Et continuer à explorer ensemble.
Voilà, autre chose, tu vois.
Que les deux.
Oui.
Ouais.
Et il a compris ça. Il sait qu'il ne va pas y retourner.
Ouais.
Moi, je sais que je ne vais pas le ramener. Parce que ça n'a pas de sens. Tu vois. Donc. Mais j'ai de la chance, je crois. Tu vois. Donc voilà l'histoire, quoi. J'aimerais bien que les gens comprennent que les rêves, c'est important et qu'il ne faut pas se mettre des barrières en disant oui, mais je ne peux pas parce que j'ai le job, oui, mais je ne peux pas parce que. Parce qu'il faut, passer ça.
Ouais.
Et qu'on fait des rencontres magnifiques. Et il faut savoir les capter et se dire, c'est pas juste des vacances et je coupe le truc, quoi. Voilà. Par exemple, là, au mois de mars, que je suis allée, il m'a fait rencontrer ses parents. Et là, c'était sa maman, mais... Alors, il parle de Dzonga, donc il m'a laissé, il est parti en plus. Donc, j'étais assis avec eux.
C'est une langue locale.
Oui, c'est une langue locale. Donc, j'étais là. On a commencé des sourires, regarder la télé. Donc, je regarde la télé. Et sa maman, mais elle te regarde dans les yeux. C'est, elle regarde ton cœur. Ça m'a tellement touchée, ces gens. Et tu n'oublies pas ça. Tu vois ?
Ah, tu veux.
Non, mais excuse-moi.
Non, mais en fait, ce matin, je me lève, en fait, il m'avait envoyé un message et sa maman est décédée cette nuit.
Ah, je suis désolée.
C'est pour ça que ça me touche, quoi.
Ouais.
Et je l'ai vue une demi-heure, cette femme. Mais je pense qu'il y avait aussi quelque chose avec elle, tu vois. Mm. Et j'ai l'impression qu'elle me disait prends soin de mon fils. Tu vois, et je sais qu'il y a pas, il y aura jamais de coupure, quoi. Jusqu'au bout, le bouton, elle fait partie de ma vie.
Donc, rien n'est arrivé par hasard.
Non.
C'est trop
triste. Ouais, pardon.
Non, c'est bon.
Je savais qu'elle était malade, quoi. Il a son papa à l'hôpital aussi. Mm. Et là, elle me dit, ma maman est partie, quoi. Mm. Et j'avais tellement envie de la revoir.
Ouais.
Mais bon, c'est pas grave, quoi. Mais j'ai eu la chance de la rencontrer, et puis ces gens... Tu vois, si tu rencontres des gens qui parlent pas la même langue que toi,
ouais.
Et il se passe tellement plus de choses qu'avec, je sais pas, quelqu'un que tu vois comme ça, que tu bois un café, qu'il n'y a rien qui se passe, quoi.
Oui, parce que du coup, t'as pas les mots.
Il n'y a pas les mots, tu vois. Elle était là, et puis elle m'a pris dans ses bras que je suis partie, quoi. Mon ami était déjà là, je dis à tout, et je lui dis au revoir. Je lui dis comment, Dzonga ? Je lui dis au revoir. On s'est pris dans les bras, et je lui dis, ah, j'espère que je vais la revoir, quoi. Mais je savais qu'elle était là. Et il y a tout dans ses yeux, en fait.
Ouais.
Tu vois,
ouais.
Et son papa, je pense que je vais pas le revoir non plus. Parce que, je pense qu'il va partir peut-être avant que je revienne aussi, quoi. Et c'est déjà la deuxième personne, en fait, que je connais au Bhutto qui s'en va, quoi. Je me dis, je pense que j'ai plus de monde au Bhutto qui s'en vont que de gens ici en Europe, quoi. Je connais peu de monde et c'est déjà la deuxième personne qui s'en va, quoi. Que je peux pas revoir. C'est bizarre, quoi.
Ouais, c'est pas facile.
Et, non. Donc, voilà, c'est les rencontres que tu fais dans ce genre de voyage. Je pense qu'au Bhutto, tu peux faire ce genre de rencontres. Alors, évidemment, quand tu vas en touriste, pas forcément, si tu veux. Tu vas rencontrer des locaux, tu peux les rencontrer, tu peux aller vers eux. Il y a des petites boutiques, tu peux te promener tout seul, c'est pas un souci.
Ouais.
Évidemment, après que tu retournes plusieurs fois, ben, t'as d'autres contacts, c'est clair, quoi. Et puis je force à chaque fois, je veux pas être touriste, t'agis. Et la troisième fois, il a compris. Et quand je suis arrivée, je dis, pas de chauffeur. Non, j'ai loué une voiture. Je suis là, waouh, wow. Il a compris, quoi.
Natria, ouais. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. C'était super inspirant aussi.
Ouais, d'être touchant.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Et puis, j'ai toujours une question avec laquelle je termine, parce que c'est autour de la liberté, ce podcast. Donc, qu'est-ce que c'est la liberté pour toi ?
Libre, c'est ça. C'est croire en ses rêves, se libérer son mental, puis foncer, quoi.
Ouais.
Et quand c'est ce qu'il disait hier soir, la liberté, c'est ça. Il n'y a pas besoin de traverser notre article. Il dit, il ne faut pas m'applaudir parce que j'ai fait ça, c'est mon truc. Mais nous, on a tous des petits rêves. Donc c'est ça, la liberté, c'est faire que les rêves ne restent pas des rêves, deviennent réalité. Voilà.
Merci beaucoup. Merci à toi, cher explorateur de liberté, d'avoir écouté. J'espère que ça t'a plu. Je te dis à bientôt pour le prochain épisode. Ah oui, puis je mettrai tous les liens je mettrai le lien du site internet de Myriam, bien sûr. Donc c'est spécialistebhutan.com. Et enfin... N'hésitez pas à partir avec elle parce qu'elle elle vit ce pays et, avec tellement de passion. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt.